Il avait été pris d'une telle angoisse que la seule façon de sortir de cette fameuse angoisse, c'était de procéder à des aveux.
Il va expliquer qu'il est le complice de Laetitia Monnier dans son idée de cambriolage, ou en tout cas de vol par ruse, hein, donc pendant qu'elle est dans la baignoire avec Jean-Jacques Lepage. Son boulot à lui, c'était de cambrioler en fait la maison. Et les choses se sont mal passées. Donc il reconnaît le meurtre et il reconnaît également l'incendie.
Plougonvelin, petit village du Finistère. À la caserne des pompiers, tout est calme, jusqu'à ce coup de téléphone, à 5h du matin.
Les pompiers, bonjour!
Je crois qu'il y a le feu dans la maison d'à côté. C'est une grande maison chez Monsieur Lepage, ça sent la fumée, j'ai vu sa fenêtre de chambre qui est ouverte et allumée en grand, et ça c'est quelque chose qui a pris feu sûrement.
Vous voyez de la fumée qui se dégage de chez lui?
Ça dégageait beaucoup tout à l'heure, mais maintenant, il n'y en a plus.
D'accord, mais vous voyez pas de flammes, rien du tout.
Non, mais je vous dis, je pense que j'en avais vu dans sa chambre, justement, qui a une grande fenêtre.
Il n'y a personne qui peut se déplacer pour voir?
Il faudrait que j'appelle l'autre voisin.
Si on déclenche tous les secours, il faudrait être sûr qu'il y a un dégagement de fumée ou quoi que ce soit à ce moment-là. Sinon, écoutez, moi je veux bien rester en ligne jusqu'à ce que vous ayez une réponse.
Non, c'est fermé chez lui. Bon, il a éteint la lumière de la cuisine maintenant.
Ouais, enfin, là, si vous voulez, s'il y a eu quelque chose, mais que monsieur depuis a éteint les lumières, s'il est dedans, ça se trouve, c'est lui. S'il y a de la fumée qui se dégage ou quoi, à ce moment-là, vous nous appelez. Mais là, pour l'instant, on va pas engager les secours.
Cet appel à tout d'une fausse alerte au feu. Le pompier de permanence ce soir-là en a la conviction. Mais il va être le point de départ d'une incroyable histoire criminelle.
J'étais à milieu de savoir que c'était une histoire aussi sordide qui allait me tomber dessus.
Pourquoi voulez-vous qu'elle le tue?
Je crois que j'ai jamais hurlé comme ça.
C'est quelqu'un qui avait un souci de séduction.
Il avait l'intention de la demander en mariage.
Je me sentais souillé, j'en avais assez, je voulais que ça se termine.
Ce 24 juillet 2009, il est 9h lorsque de nouveau le téléphone sonne à la caserne des pompiers de Plougonvelin. Cette fois, c'est un riverain qui signale un incendie, toujours dans la même maison.
Évidemment, les pompiers vont intervenir immédiatement, mais quand ils arrivent, c'est un véritable brasier. Et c'est au deuxième étage de la bâtisse qu'ils vont découvrir un cadavre d'un homme qui est entièrement brûlé dans une pièce qui semble être une chambre.
Cet homme est très vite identifié. Il s'agit de Jean-Jacques Lepage, le propriétaire de la maison. La presse s'empare alors de l'affaire, car tout le monde se demande pourquoi les pompiers ne sont pas intervenus plus tôt.
En Bretagne, deux pompiers entendus après la mort d'un homme dans l'incendie de sa maison. Une voisine alertée par une forte odeur de brûlé avait appelé les secours qui se sont déplacés, mais trop tard.
Une bâche cache désormais la maison aux curieux, ou ce qu'il reste de la maison, car tout l'étage a brûlé hier matin, causant la mort du propriétaire des lieux qui dormait là. Quand les pompiers sont intervenus, il était trop tard, bien trop tard même, et c'est ce qui pose aujourd'hui question.
Le lendemain, les journalistes sont au courant qu'il y aurait eu un couac, entre guillemets, aux pompiers. Le premier coup de fil n'avait pas été pris au sérieux, donc ce qui amène à penser que, effectivement, les pompiers, s'ils avaient réagi plus tôt, auraient pu sauver Jean-Jacques Lepage.
Tout laisse penser que Jean-Jacques Lepage est mort brûlé dans les flammes. Pour déterminer les causes de cet incendie, le parquet de Brest décide d'ouvrir une enquête. Les gendarmes commencent par entendre les proches de la victime, et notamment son fils, Pierre-Yves Lepage.
On n'a pas d'informations particulières, sinon qu'il est décédé dans un incendie. Et on me demande, est-ce qu'il fumait? Oui. Est-ce qu'il a pu s'endormir dans son lit avec sa cigarette? Oui. La maison a brûlé, bon, bah voilà.
C'est un homme de 68 ans qui vivait seul dans cette maison et qui était un gros fumeur. Donc en un premier temps, ils imaginent qu'il a fumé au lit et que cette cigarette a embrasé sa literie.
Seulement, la thèse d'un possible accident va très vite voler en éclats.
Les experts vont rendre leur travail d'expertise en disant que c'est un incendie criminel, en tout cas que c'est un incendie volontaire, que ce n'est pas un accident, que ce n'est pas un court-circuit ou quelque chose comme ça. On a visiblement quelqu'un qui a volontairement mis le feu à cet endroit.
L'incendie est donc criminel. Alors, en refusant d'intervenir tout de suite, les pompiers ont-ils condamné Jean-Jacques Lepage ? C'est l'autopsie qui va apporter la réponse à cette question.
Et là, on se rend compte qu'il est porteur de 15 coups de couteau, notamment. Et donc, l'origine de la mort ne fait pas beaucoup de doute, puisque ce serait ces 15 coups de couteau qui l'auraient tué. Et donc, absolument pas l'incendie, puisque, a priori, ses poumons sont, entre guillemets, propres. Et donc, il n'a pas inhalé de fumée.
On retrouve également une blessure à l'œil, probablement une décharge d'une arme à grenaille. Hein, c'est de la limaille de fer qui vraiment est arrivée dans l'orbite oculaire. Et puis sur tout le corps, il y a des traces de limaille de fer.
L'autopsie permet également de déterminer l'heure de la mort. Elle se situe entre 23h et minuit. Mais que s'est-il passé dans la nuit du 23 au 24 juillet 2009 dans cette ville-là ? Qui en voulait à Jean-Jacques Lepage pour le tuer aussi violemment ?
Ce qui est sûr, c'est que l'existence de 15 coups de couteau, c'est un acharnement. Il y a vraiment une volonté délibérée de donner la mort quand on met 15 coups de couteau. C'est dans un état intense de stress et de rage.
Pour Pierre-Yves Lepage, qui pensait que son père était mort dans un accident, l'annonce est terrible.
Tout d'un coup, on nous apprend qu'effectivement, de façon assez solennelle et assez brutale, qu'il est décédé suite à, non pas à l'incendie, mais à un meurtre par arme blanche. Et je me souviens très bien. Je suis sorti du bureau et je crois que j'ai jamais hurlé comme ça.
Les enquêteurs ont désormais un meurtre à résoudre. Et très vite, un élément fondamental leur apparaît. En inspectant le rez-de-chaussée de la villa, épargné par les flammes, ils constatent que le retraité n'était pas seul la nuit du meurtre.
Les enquêteurs découvrent sur une table une bouteille de champagne vide et deux verres de coupe à champagne.
Et ce n'est pas tout. Dans les toilettes, dont la fenêtre est restée ouverte, les gendarmes font une autre découverte de taille.
Ils vont découvrir l'empreinte d'une chaussure, d'une semelle de chaussure de grande taille, 44, sur la cuvette des toilettes.
Mais à qui appartient cette empreinte ? Pour le moment, impossible de le savoir, mais une chose est sûre, elle ne correspond pas à la pointure de la victime. En attendant, et comme toujours en pareil cas, les gendarmes s'intéressent à la personnalité de la victime. Qui était-elle ? Avait-elle des ennemis ?
Donc à la base, il est opticien. Il a un peu galéré quand il s'est installé financièrement. Donc en fait, il s'est vite mis dans la prothèse auditive. Et c'est là où, en fait, il y avait à l'époque peu d'audioprothésistes. Et donc, il a fait vraiment toute sa carrière là-dedans et il a très, très, très bien réussi. C'est un homme, de toute façon, qui était charmeur, brillant, très intelligent.
Il avait un talent qui lui a servi énormément et qui a contribué à sa réussite professionnelle. C'est qu'il avait l'art, quand vous étiez en face de lui, de vous faire comprendre que vous n'étiez pas non pas la personne la plus importante pour lui, mais la personne la plus importante au monde. C'était pas quelqu'un qui était un grand homme musclé, beau, surfeur, etc. Mais pourtant, qui était un séducteur, en particulier avec les dames.
Mais il y avait une ombre au tableau. Jean-Jacques Lepage a perdu sa femme 2 ans plus tôt et il se sentait terriblement seul. Alors, à 68 ans, il sortait régulièrement le soir à la recherche de l'âme sœur, souvent plus jeune que lui.
Jean-Jacques Lepage était quelqu'un qui aimait s'entourer de jeunes filles, participer à des soirées, sans forcément qu'il y ait une connotation sexuelle, mais c'est quelqu'un qui avait un souci de séduction. Il voulait profiter notamment sur la fin de sa vie de ses derniers instants de jeunesse.
Il fréquente un club à hôtesse, le Club 46, qui est un bar à bouchons, c'est-à-dire le principe est simple. Les clients viennent pour trouver de la compagnie, une compagnie féminine. Et quand on dit à bouchons, c'est parce qu'il faut un certain nombre de bouchons de champagne, enfin de bouteilles de champagne ou de coupes de champagne consommées pour avoir le droit à quelques faveurs de ces dames qui se trouvent de l'autre côté du bar.
Au fil du temps et à force de fréquenter ce bar à hôtesse, Jean-Jacques Lepage est parvenu à trouver l'amour. Une certaine Lola, 24 ans, Laetitia Monnier de son vrai nom.
Il est solitaire, il a envie d'affection, il a envie de tendresse et de relations sexuelles. Et Laetitia l'aime beaucoup parce qu'il est extrêmement gentil, il est extrêmement raffiné, il est respectueux.
Aussi curieux que ça puisse paraître, voilà, cet homme de 68 ans qui a une vie honorable, qui se retrouve amoureux d'une jeune fille de 24 ans à petite vertu.
Jean-Jacques Lepage semble heureux. Il nourrissait même avec Laetitia un grand projet.
Il va se tisser entre les deux un lien assez extraordinaire, au point que M. Lepage parlera d'épouser Laetitia.
Il avait l'intention de la demander en mariage. C'était quelque chose qu'on savait. On trouvait ça passablement ridicule, si vous voulez, mais en même temps, on ne voulait trop rien lui dire, puisqu'on le voyait tellement heureux, et ça faisait tellement de temps qu'on ne l'avait pas vu sourire.
Lola semble sincère avec Jean-Jacques Lepage. Elle l'apprécie et aime passer du temps avec lui. C'est en tout cas ce qu'elle avait confié à sa maman.
Apparemment, ils se connaissaient depuis peu de temps, peut-être 3 semaines, je ne sais pas. Et elle m'en avait dit du bien. Elle avait dit qu'il la faisait rire.
Malgré la différence d'âge, Laetitia Monnier et Jean-Jacques Lepage sont heureux ensemble. Et cela intrigue les enquêteurs. Alors ils vont fouiller dans la vie de la jeune call girl pour tenter de découvrir si elle n'a pas quelques secrets inavoués. D'abord, il découvre que Laetitia est arrivée en Bretagne il y a peu de temps. Visiblement, elle tentait de fuir sa mère, justement, avec laquelle elle entretenait une relation fusionnelle.
À l'époque des faits, il faut bien comprendre qu'elle, pour la première fois, elle vit en autonomie. C'est-à-dire qu'elle a décidé de quitter Saint-Étienne et par là même de quitter sa mère.
Après, elle est venue sur Brest, je ne sais pas ce que... Pourquoi elle a choisi ? Elle a choisi Brest ? Je ne sais pas.
Brest, c'est un bout du monde. C'est-à-dire, c'est l'endroit le plus loin possible de Saint-Étienne. Comme par hasard, c'est là que vient Laetitia, mais sa mère va pas tarder à la rejoindre parce que, semble-t-il, c'est insupportable pour Chantal Monnier d'être loin de sa fille.
Très vite, Laetitia Monnier trouve du travail à Brest dans ce fameux bar à hôtesse où elle se fait appeler Lola. Et Lola, 24 ans, a une spécificité.
Laetitia Monnier, c'est une call girl. C'est une particularité qui a été démontrée par la suite, c'est qu'elle est vierge.
Elle cherchait l'amour. Et donc, elle a dit peut-être qu'en gardant sa virginité, si quelqu'un l'aimait vraiment, donc il la respecterait et il attendrait avant de vouloir avoir une relation sexuelle avec elle.
Alors, Jean-Jacques Lepage est-il l'heureux élu avec lequel Lola est en confiance ? La jeune entraîneuse est-elle sincèrement amoureuse de cet homme, de plus de 40 ans qu'elle ? Et puis, était-elle avec lui le soir du crime ? Les enquêteurs décident de l'entendre sur la soirée du 23 juillet 2009.
Laetitia Monnier va très spontanément reconnaître qu'effectivement, elle est en relation fréquente avec la victime et que ce jour-là, ils se sont vus, qu'ils ont dîné ensemble au Flunch, qu'ensuite, ils sont allés chez lui pour prendre des consommations, notamment du champagne, et qu'elle a quitté les lieux vers 23h, 23h30, et qu'il était vivant.
Laetitia Monnier affirme donc avoir laissé Jean-Jacques Lepage vivant. Elle explique avoir passé le reste de la nuit dans une fête dans le même quartier.
Elle va rencontrer des jeunes qui vont, dans la maison de l'un d'eux, finir la soirée. Et elle va se faire embarquer par ces jeunes qui lui proposent de venir à la soirée.
Seulement, en vérifiant ses déclarations, les gendarmes vont découvrir que cette nuit-là, Laetitia Monnier n'est pas passée inaperçue.
Ils retrouvent un certain nombre de participants à cette soirée qui confirment la présence de Laetitia Monnier à partir de minuit, en gros, hein, minuit moins le quart peut-être, dans cette soirée.
Ce qui est certain, c'est qu'elle est très alcoolisée. Elle a des comportements curieux. Mais elle va, semble-t-il, rester discuter très longtemps en buvant avec aussi un des jeunes.
Elle a même été rejoindre un jeune homme qui était parti prendre une douche et lui a proposé spontanément de lui faire quelques caresses, ce qu'il a accepté.
Et il y a autre chose. Le jeune homme révèle que Laetitia Monnier cachait un objet pour le moins surprenant dans son sac à main.
Ce jeune homme entendu dira quelque chose d'intéressant puisqu'elle avait posé son sac sur un tabouret et que le sac est tombé du tabouret, et l'homme a vu un couteau qui était dans le sac à main.
Un couteau qui portait des traces rougeâtres, précisera même ce jeune homme. Un peu plus tard, dans la matinée du 24 juillet, Laetitia sera aperçue sur la plage, juste au pied de la maison de Jean-Jacques Lepage. Et cela va pour le moins intriguer les gendarmes.
Elle va avoir un comportement qui va étonner parce que elle est à la plage, elle est habillée, elle s'expose en plein soleil, puis va se baigner tout habillée. On remarque son comportement parce que c'est pas une plagiste, elle est pas en maillot de bain avec sa serviette de bain, sa crème solaire, etc. On voit bien que c'est un peu curieux.
Plusieurs personnes évoqueront un couteau dans son sac à main, c'est-à-dire que en fait sera vu le manche du couteau dans son sac à main.
Un comportement étrange à proximité du domicile de la victime, un couteau ensanglanté, tout laisse penser que Laetitia Monnier serait impliquée dans le meurtre de Jean-Jacques Lepage.
Les gendarmes ont bien compris qu'il y avait un truc qui n'allait pas et qu'elle n'avait pas tout dit, en tout cas qu'elle n'avait certainement pas dit toute la vérité.
Réentendue par les enquêteurs, Laetitia Monnier va alors reconnaître qu'elle était présente au moment du crime, mais qu'elle n'était pas seule. Selon elle, elle était accompagnée par un certain William Roland.
Alors William Roland, c'est un jeune Brestois, c'est quelqu'un qui zone un petit peu. Peut-être que le terme de paumé serait pas très très flatteur pour lui, mais c'est quelqu'un qui n'a pas de travail, qui n'a pas des bonnes fréquentations non plus. Et c'est quelqu'un qui, depuis 2-3 semaines avant les faits en tout cas, est devenu ami avec Laetitia Monnier.
William Roland le voici, et le jeune homme l'avoue, il avait des sentiments pour Laetitia Monnier.
Je l'ai rencontrée pour la première fois au bas de ma rue. Elle se présente sous le nom de Marie, donc une jeune femme de 20 ans, et donc qui m'a tout de suite avoué de but en blanc hein, qu'elle travaillait donc, dans des bars à hôtesses. Alors moi j'avais pour espoir en fait de devenir ami avec plus ses affinités. Ça je ne l'ai jamais caché d'ailleurs.
Seulement pour William Roland, rien ne va se passer comme il le prévoyait. Car face aux enquêteurs, Laetitia Monnier va largement mettre en cause le jeune homme dans le meurtre de Jean-Jacques Lepage. Voici ce qu'elle raconte à propos de ce qui se serait passé dans la soirée du 23 juillet 2009. Selon la jeune femme, c'est un cambriolage qui aurait mal tourné.
Monsieur Lepage aurait demandé à Laetitia Monnier une prestation de nature sexuelle. Il a été question de prendre un bain ensemble et la rémunérer. Lorsque le bain était en train de couler, que Monsieur Lepage était occupé, William Roland serait rentré dans la maison, selon le projet de cambriolage qu'ils avaient établi au départ. Et puis là, William Roland fait du bruit. Et donc, par conséquent, Jean-Jacques Lepage entend, descend et le surprend.
Et là, du coup, eh bien, William Roland, sous la menace physique, a remonté Jean-Jacques Lepage dans sa chambre, pendant que Laetitia Monnier restait au rez-de-chaussée pour fouiller. Elle aurait pris notamment 500 euros dans la poche du manteau. Et après qu'elle ait dérobé cet argent, elle entend un hurlement à l'étage. Elle monte et là, elle voit au sol Jean-Jacques Lepage, mortellement touché, en tout cas il ne bouge plus, il est mort. Et c'est William Roland qui l'a tué.
Va demander à Laetitia de partir de la maison et de quitter les lieux. Et là, elle part et elle ne le reverra plus, selon donc sa version.
La version de Laetitia semble crédible. Et immédiatement, les enquêteurs se lancent à la recherche de William Roland. Mais le jeune homme semble s'être volatilisé.
Ils vont aller à son domicile, ils ne le trouvent pas, donc par conséquent, ils vont le chercher un petit peu partout. À moins d'une coïncidence, c'est vrai que ça ressemble beaucoup à une fuite. Puis comme ils n'arrivent vraiment pas à mettre la main dessus, ils vont le diffuser, comme on dit dans le jargon policier, c'est-à-dire qu'ils vont lui décerner un mandat de recherche.
C'est à la faveur d'un incroyable concours de circonstances que les gendarmes vont retrouver William Roland à plus de 1200 km de Brest. Le jeune homme est en fait en vacances à Marseille et il se rend au commissariat pour déclarer la perte de ses papiers d'identité.
En déclarant son identité, évidemment, le policier qui est en face de lui tape son nom et son prénom et là, il faisait l'objet d'un mandat de recherche. Donc le policier lui dit, Monsieur Roland, venez par ici et on vous garde.
Quand ils ont vu mon nom, Roland William, en rouge, mandat d'arrêt, c'est là qu'ils ont commencé à me regarder bizarrement. Et puis hop, trois ou quatre policiers se sont mis autour de moi et vraiment arrêté comme un gangster, quoi, les mains dans le dos et tout. Et j'avais aucune idée du chef d'inculpation à ce moment-là. Je disais même à l'officier qu'est-ce qui se passe.
Et il se retrouve, j'allais dire, là, à partir de ce moment-là, embarqué dans une histoire qui va complètement le dépasser.
William Roland est transféré à Brest et confié aux enquêteurs qui travaillent sur le meurtre de Jean-Jacques Lepage. À ce moment-là, le jeune homme ignore tout de ce dont on l'accuse.
Pour moi, j'étais à milieu de savoir que c'était une histoire aussi sordide qui allait me tomber dessus.
Il est placé en garde à vue dans la foulée. On lui dit « Vous êtes accusé de meurtre et d'incendie d'une maison à Plougonvelin dans le Finistère. » c'est le ciel qui lui tombe sur la tête.
Puis, les gendarmes lui annoncent qu'une jeune femme, Laetitia Monnier, l'implique dans le meurtre de Jean-Jacques Lepage.
J'ai dit directement à l'inspecteur « Moi, je n'ai rien à vous cacher. Je vais tout vous dire, parce que quand j'ai appris le chef d'inculpation pourquoi j'étais là, tout s'est écroulé autour de moi. Je me suis senti trahi. » Alors tout d'abord, je nie, totalement. J'étais persuadé que ça pouvait être moi et personne d'autre. Tout simplement parce que j'étais allé sur Marseille à cette époque-là. Et pour eux, ils ont fait le lien. Ils ont dû se dire, ah bah tiens, il a foutu le camp, ça peut être que lui. Ça s'arrête là.
Le jeune homme raconte alors aux enquêteurs qu'il était bien avec Laetitia Monnier le 23 juillet 2009. Mais voici, selon lui, comment se serait déroulée la journée.
William Roland passe une partie de cette journée avec Laetitia Monnier. Et Laetitia Monnier lui dit à un moment donné qu'elle a rendez-vous au travail avec un client dont William Roland ne connaît pas l'identité.
On a, d'un commun accord, convenu de se retrouver le soir même, donc à mon appartement. Donc pour un petit apéro, un petit apéritif.
Et William raconte qu'il a choisi ce moment-là pour avouer ses sentiments à Laetitia.
J'avais prévu une petite bouteille de mousseux, des cacahuètes, des pistaches, tout ça, pour qu'on se mette bien, quoi, un petit apéritif en petit comité, tous les deux, et puis se remettre à l'aise.
Seulement voilà, Laetitia se fait attendre.
William Roland, en fait, il passe la soirée à attendre Laetitia Monnier.
Je lui ai envoyé des SMS pour savoir ce qu'elle faisait un peu. Elle m'a rappelé et elle me dit « je vais pas tarder ».
La jeune femme ne viendra jamais. Dépité, William Roland passe la soirée en ville avec l'un de ses amis. Il part le lendemain pour des vacances à Marseille, prévues depuis longtemps. Mais la version du jeune homme ne va pas convaincre les enquêteurs, car certains éléments les intriguent.
En perquisition, les gendarmes ont découvert une paire de chaussures de sport, des baskets, qui sont de taille 44 et qui collent à peu près avec l'empreinte retrouvée sur la cuvette des toilettes.
L'expert qui examine cette lunette écrit un rapport dans lequel il indique que cette trace de semelle qui figure sur la lunette des toilettes peut correspondre à la chaussure de William Roland, mais qu'il sera toujours impossible de dire que c'est la trace de la chaussure de William Roland. Et c'est toute l'ambiguïté de la conclusion. Ça peut correspondre à sa chaussure, mais on ne pourra pas dire que c'est sa chaussure.
Et ce n'est pas tout. William Roland a des marques sur le corps. Des marques qui ont tout de suite attiré l'attention des enquêteurs.
Il l'a au visage et un peu partout sur le dos et au niveau des avant-bras, des traces de brûlure. Traces de brûlure qui ont été vues par un médecin légiste qui considère qu'elles sont compatibles avec quelqu'un qui a été au contact d'un incendie.
Ça leur paraît tout de suite suspect hein, de voir des traces sur mon corps. J'avais eu une chute en skateboard il y a 2 ou 3 mois de ça. Ça n'avait rien à voir avec cette histoire de meurtre, en fait.
Malgré ces dénégations, les enquêteurs sont persuadés de détenir un coupable. Alors ils vont tout mettre en œuvre pour le faire avouer.
Durant cette garde à vue, il va subir plus de 12 heures d'interrogatoire, sur, de mémoire, 4 interrogatoires. Les 3 premiers, il va se battre, j'allais dire, bec et ongle en disant qu'il n'a absolument rien fait.
Mais comme cela se produit parfois, au 4e interrogatoire, William Roland est à bout de nerfs et finit par craquer.
Je suis tombé aux larmes. Pour moi, j'étais totalement humilié. Je me sentais souillé. J'en avais assez. Je voulais que ça se termine. J'ai pensé à ma famille, à mon avenir, à ce pauvre vieil homme qui s'est fait assassiner d'une façon sordide.
Il avait été pris d'une telle angoisse que la seule façon de sortir de cette fameuse angoisse, c'était de procéder à des aveux.
Il va expliquer qu'il est le complice de Laetitia Monnier dans son idée de cambriolage, ou en tout cas de vol par ruse. Hein, donc pendant qu'elle est dans la baignoire avec Jean-Jacques Lepage, son boulot à lui, c'était de cambrioler en fait la maison. Et les choses se sont mal passées. Donc il reconnaît le meurtre et il reconnaît également l'incendie.
Seulement, très vite après ses aveux, William Roland regrette et se rétracte. Et il va d'ailleurs le faire savoir au plus haut niveau.
Il va écrire au juge d'instruction un courrier dans lequel il va expliquer qu'il a fait des aveux à tort, qu'il a subi une pression en garde à vue et qu'il n'était en rien un Plougonvelin ce soir-là et qu'il n'a jamais tué qui que ce soit. Je crois de mémoire, d'ailleurs, il disait qu'il en était bien incapable.
Je reviens sur mes aveux. Car clairement, pour moi, il y avait injustice là-dessus.
Voici ce que va écrire William au juge.
J'étais affaibli mentalement et physiquement. J'aurais tout fait pour que ce cauchemar s'arrête. Je n'ai jamais tué personne. Je n'en suis pas capable.
Mais il y a quelque chose qui cloche et qui peut remettre en cause la sincérité des rétractations de William Roland. Si le jeune homme est innocent, comment connaissait-il les détails du meurtre ? Et s'il n'était pas à Plougonvelin ce soir-là, comment a-t-il pu raconter le même scénario que Laetitia Monnier ? Il y a peut-être une explication que donne son avocat. Ce sont les enquêteurs qui, au fil des interrogatoires, ont eux-mêmes livré les circonstances du meurtre.
L'enquêteur lui avait montré un certain nombre de photos de la scène de crime, extérieure de la maison. Donc effectivement, William Roland, lorsqu'il passe aux aveux, n'a fait en fait que restituer ce qu'il avait entendu et vu, puisque l'enquêteur lui avait lu également une partie des dépositions de Laetitia Monnier.
Malgré tout, rien n'y fait. William Roland et Laetitia Monnier sont tous les deux mis en examen pour le meurtre de Jean-Jacques Lepage. Ils sont placés en détention provisoire à la prison de Brest. Mais l'avocat du jeune homme continue de se battre. Et c'est grâce à des photos de famille qu'il va réussir à prouver que son client est peut-être innocent. Car les traces que les gendarmes prennent pour des brûlures ne sont en réalité que les conséquences d'une chute.
Il m'a dit, mais avant de partir à Marseille, bien avant cette affaire-là, j'étais allé chez ma mère pour l'anniversaire d'une sœur ou d'une cousine, et il avait fait du skateboard, et il était tombé, et donc il avait des blessures. Et donc il y avait des photos qui avaient été prises à l'époque. On les a communiquées au juge d'instruction. Les blessures préexistaient à toute cette affaire. Donc ça a un petit peu affaibli cet élément d'accusation quand même.
William Roland est alors remis en liberté sous contrôle judiciaire après 2 mois et 10 jours de détention. Alors, si ce n'est pas lui qui a tué Jean-Jacques Lepage, qui est-ce ? 1 an après le meurtre, Laetitia Monnier est à nouveau entendue. La jeune femme a des révélations à faire. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que sa nouvelle version de l'histoire paraît encore plus invraisemblable que les précédentes.
Elle va donner une autre version en faisant intervenir un troisième personnage, Monsieur Habib.
Alors Habib, pour elle, c'est un ami également, un ami avec autant de guillemets que possible, hein, un ami autant que l'est William Roland, c'est-à-dire pas vraiment un ami finalement, c'est quelqu'un qui traîne, hein, quelqu'un qui zone dans Brest, quelqu'un qui repose non plus sur des bases d'intégration sociale solide. Quoi.
Les gendarmes vont vérifier l'emploi du temps de ce garçon, Habib, et s'apercevoir assez rapidement qu'il ne pouvait pas être sur les lieux du crime à l'heure du crime, le jour du crime. Il a un alibi, comme on dit, en béton, et par conséquent, la piste va être écartée assez rapidement. Mais en tout cas, c'est un des derniers soubresauts de Laetitia Monnier dans son système de défense.
Quelques semaines plus tard, nouveau rebondissement. Une lettre anonyme arrive sur le bureau de la juge d'instruction.
Une lettre qui dit, en substance, hein, je sais où sont les couteaux qui ont servi au meurtre de Jean-Jacques Lepage. Cette lettre va décrire le chemin à parcourir pour arriver jusqu'à une cachette dans un mur où, de fait, les enquêteurs vont retrouver un sac qui ressemble terriblement aux descriptions qui sont faites par rapport au sac qu'avait Laetitia Monnier le soir des faits, et puis 2 couteaux. Cette découverte ne va rien donner puisqu'en fait, on ne retrouve pas de traces de sang sur ces couteaux.
On n'a aucun élément de preuve comme quoi il s'agirait des armes du crime.
La juge d'instruction ordonne alors une analyse graphologique de la lettre pour en découvrir l'auteur. Et les résultats de cette expertise sont pour le moins étonnants.
Elle aurait été écrite par un certain Habib.
Habib aurait-il voulu se venger de Laetitia Monnier qui l'avait injustement accusée du crime ? Peut-être bien.
Il est interrogé sur ce point et il dira que c'est possible que ce soit lui, il ne s'en souvient pas très bien parce qu'il picole beaucoup et que quand il picole, il ne se souvient pas de ce qu'il fait, mais qu'il est très en colère contre Laetitia Monnier de l'avoir dénoncé et que ça pourrait être une vengeance.
Mais si ni William Roland ni Habib ne sont les auteurs du crime, qui a tué Jean-Jacques Lepage ? La jeune femme aurait-elle agi seule ? Difficile de le savoir. mais pour l'avocat de la famille Lepage. Plusieurs détails mettent en cause Laetitia Monnier.
Elle va prendre une douche quelques heures après les faits, avec un des jeunes garçons. Elle va aller dans la piscine, tout habillée. Le lendemain, lorsqu'elle va se retrouver sur la plage du Trésir, elle va retourner se baigner, comme si elle voulait se laver de ce qu'elle avait pu commettre. Cette volonté de pureté qu'on retrouve dans la volonté de préservation de sa virginité est pour moi aussi un des indices, un des faisceaux d'indices qui nous ramène au rôle central de Laetitia Monnier dans la commission du crime.
Seulement, un faisceau d'indices, cela ne suffit pas.
Je ne vois pas de mobile au fait que Laetitia Monnier ait pu tuer Jean-Jacques Lepage. Elle l'aimait bien, il était généreux, il voulait l'épouser. Pourquoi voulez-vous qu'elle le tue ?
Elle n'avait pas de raison de le tuer. Elle aurait quoi ? Elle aurait tué avec des couteaux et des balles, mais ça n'a pas de sens. C'est criminel, ça, c'est les terroristes qui vont avec des couteaux et des armes, là. C'est pas possible.
Je parle même pas du fait soigneusement occulté, mais qui est quand même absolument réel, qui fait que M. Lepage a du plomb dans l'œil. Il a reçu un coup de pistolet à grenaille dans l'œil. Pistolet qu'on n'a pas retrouvé, et on se demande bien ce que Laetitia aurait fait avec. Et si Laetitia utilisait un pistolet et un couteau pour tuer M. Lepage, pourquoi s'est-elle débarrassée du pistolet et a-t-elle précieusement gardé un couteau qui serait soi-disant couvert de sang ? Ça paraît totalement absurde.
En tout état de cause, les armes du crime ne seront jamais retrouvées. Il y a un autre argument qui tente à prouver que Laetitia ne peut pas être l'auteur du crime. C'est l'heure de l'incendie.
Comment voulez-vous que l'incendie ait été allumé par Laetitia Monnier ? Sachant qu'elle est depuis 23h45 ou 23h30 dans une autre maison, dans une soirée, avec d'autres gens. Et de toute façon, elle était dans un état tel qu'elle s'est endormie et réveillée le lendemain. Donc, il y a quelqu'un à 5h du matin dans la maison de M. Lepage. Ça ne fait aucun doute. Et ça ne fait aucun doute non plus que ce quelqu'un n'est pas Laetitia Monnier.
Mais qui aurait incendié la maison ? Laetitia Monnier aurait-elle eu un autre complice ? Quelqu'un qu'elle n'aurait jamais dénoncé ? Ou pourrait-il s'agir de William Roland ? En tout cas, le jeune homme, bien que libre, reste mis en examen pour le meurtre du retraité. L'enquête sur la mort de Jean-Jacques Lepage va durer 8 années.
8 ans d'instruction, c'est un non-sens. Une bonne instruction, ça dure un an et demi, 2 ans maximum. Et là, le fait qu'il dure 8 ans, c'est quand même un mauvais présage. Hein.
Pourquoi cette instruction a été très longue ? Principalement du fait des systèmes de défense qui ont été adoptés par Laetitia Monnier. À savoir de conduire au moins à 3 reprises les enquêteurs sur des fausses pistes. Ce qui a retardé, bien évidemment, la clôture de l'instruction et qui a donné à cette instruction une dimension surréaliste.
Elle a une personnalité très particulière, une personnalité qui a été qualifiée de plastique, et c'est vraiment ça. Elle s'adapte toujours à son interlocuteur. Si vous l'interrogez sur un thème et qu'elle pense que vous souhaitez une réponse, elle va vous donner cette réponse.
Laetitia Monnier est une suspecte complexe parce qu'elle dit tout et son contraire, qu'elle donne 14 versions différentes, qu'elle désigne des gens qui s'avèrent être innocents, qu'elle ne dit pas toute la vérité.
Pour William Roland, qui crie toujours son innocence, ses 8 ans d'instruction ont été particulièrement difficiles à vivre.
La longueur de cette instruction a été, j'allais dire, hautement préjudiciable pour ce garçon. Je ne sais pas si on peut s'imaginer de, entre guillemets, traîner une accusation d'assassinat pendant 8 années. C'est quelque chose d'extrêmement difficile pour tout un chacun. Et je veux dire que compte tenu de la personnalité fragile de William Roland, ça a été extrêmement difficile à supporter.
Ça a été 8 ans de chaos. Ça a été 8 ans de descente aux enfers où j'avais perdu tous mes repères. Pour moi, ça m'a hanté. Ça m'a hanté le fait que j'étais incertain de l'issue que ça allait prendre au vu des éléments portés à charge contre moi.
Le procès de Laetitia Monnier et de William Roland s'ouvre le 1er mars 2017 au tribunal de Quimper. Tout l'enjeu sera de déterminer exactement ce qui s'est passé ce 23 juillet 2009 dans la villa de Jean-Jacques Lepage.
Hier, le procès d'une call girl brestoise et d'un homme s'est ouvert 8 ans après le meurtre à Poulou-Gonvelin d'un retraité de 67 ans.
Pour la famille de la victime, ce procès est une nouvelle plongée dans l'horreur.
C'est un boomerang, en fait, qu'on a lancé en 2009 et qui va revenir, là. Et il revient en 2017. C'est 8 ans plus tard, vous avez enterré cérébralement cette affaire et là, elle va revenir et puis elle va revenir fort. J'avais jamais vu Laetitia Monnier, même pas une photo. Elle est là, quoi. Elle est là. Je ne suis pas rentré dans les détails des procédures. J'entends qu'elle a déjà donné 14 versions avant le procès. Je m'attends à ce que ce soit un petit peu compliqué.
Quand on arrive aux assises au bout de 9 ans, ce qu'on se dit, c'est qu'on veut avoir une vérité. On s'en contentera de cette vérité. Qu'on puisse refermer le livre.
Pour William Roland, qui comparaît libre, le moment est capital. Il s'agit de démontrer qu'il est bel et bien innocent.
Je parle dans un esprit combatif. Un esprit combatif, mais tout de même la crainte d'avoir cette épée de Damoclès. On ne se rend pas compte de ce que c'est une salle d'assises tant qu'on n'est pas placé en tant qu'accusé là-bas.
Le jeune homme se retrouve sur le banc des accusés, aux côtés de Laetitia Monnier, cette femme qui a fait basculer sa vie dans l'horreur 8 ans plus tôt. C'est la première fois qu'il la revoit.
Je ressens un énorme mélange de haine et de pitié. Nos regards se sont croisés quelques fois et souvent elle baissait la tête. Comme si, voilà, elle se sentait coupable d'avoir fait une bêtise.
Dès les premières audiences, l'avocat de William Roland veut démontrer que son client ne pouvait tout simplement pas être à la maison de Jean-Jacques Lepage le soir du crime. Souvenez-vous, le jeune homme ce soir-là est chez lui, à Brest, et attend Laetitia. Ne la voyant pas venir, il l'appellera à plusieurs reprises.
Le dernier appel de William Roland se situe à 22h30. Il est situé à Brest. Il y avait un autre élément objectif qui était le voisin qui était venu chercher William Roland aux alentours de minuit. Donc il y avait un créneau horaire d'une heure et demie. Ça serait le créneau horaire pendant lequel Jean-Jacques Lepage aurait été tué. La seule solution qui se présentait à William Roland pour aller là-bas, c'était de faire du stop, puisqu'il n'avait pas ni son permis de conduire et il n'avait pas de moyen de locomotion.
Alors, comment expliquer qu'en une heure et demie et en stop, William Roland ait pu aller de Brest à Plougonvelin, tuer Jean-Jacques Lepage et revenir à Brest en sachant qu'à l'époque, les gendarmes avaient eux-mêmes calculé que cet aller-retour prenait à minima une heure.
Il lui restait un créneau de 7 minutes pour rentrer dans la maison, tuer Jean-Jacques Lepage, mettre le feu à sa maison et ressortir. Pour vous dire que c'était matériellement impossible.
J'avais clairement l'espoir d'être innocenté au final. Et à part dire que j'étais innocent, qu'est-ce que je pouvais leur dire de plus ?
C'est maintenant au tour de Laetitia Monnier de se confronter aux juges et aux avocats. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la jeune femme a bien du mal à se défendre.
Laetitia, c'est impossible, c'est ingérable. Elle parle, elle essaye de parler, et plus elle parle, plus elle s'enfonce, parce que ses versions sont à chaque fois différentes, elle sait plus où elle en est, et moi je crois que la vérité, elle la connaît pas, et qu'elle s'efforce de la donner. Donc forcément, ça donne une impression désastreuse.
On est reparti en 9 jours sur 4 versions de plus. Donc on arrive à la fin d'un procès où on a 18 versions différentes.
Laetitia a tout d'une coupable qui s'enferre dans ses mensonges. Mais il y a un hic, une question à laquelle personne ne parvient à répondre. Pourquoi aurait-elle voulu tuer Jean-Jacques Lepage ?
Est-ce que le mobile, comme l'affirme l'avocat général, c'est une tentative d'un rapprochement sexuel qu'elle ne souhaitait pas, qu'elle ne voulait pas, puisqu'on a vu qu'elle voulait garder sa virginité pour l'homme de sa vie ? Donc visiblement, elle avait considéré que Jean-Jacques Lepage n'était pas l'homme de sa vie. Et à ce moment-là, les choses auraient mal tourné dans un moment de panique. Et ensuite, elle s'organise comme elle peut, elle vole ce qu'elle trouve. Et après, elle appelle quelqu'un pour venir mettre le feu à 5 h du matin. Ça, c'est une hypothèse tout à fait plausible.
Mais alors, qui serait ce fameux complice ? Et pourquoi la jeune femme le protège-t-elle en accusant un peu n'importe qui ?
Elle protège probablement quelqu'un, mais elle veut pas le dénoncer. Et c'est souvent d'ailleurs dans les dossiers criminels, on s'aperçoit que quand on commence à dénoncer des gens qui sont innocents, c'est parce qu'on veut vraiment couvrir quelqu'un de proche et qu'on ne dira jamais qui est cette personne proche.
Et parmi les proches, il y en a une qui est au cœur des interrogations. C'est Chantal Monnier, la mère de Laetitia.
On a découvert que cette dame avait pu avoir un rôle peut-être plus important que ce qu'on avait imaginé. Malheureusement, elle était citée en tant que témoin.
En effet, l'enquête montre que Chantal Monnier était près de chez Jean-Jacques Lepage le 24 juillet 2009, à 9 h du matin.
Le lendemain, je suis allée au Conquet me promener et ils ont dit « c'était pas loin, il fallait bien qu'ils trouvent… Il leur faut chercher des coupables ».
Comment se fait-il que le lendemain des faits, son téléphone borne à quelques centaines de mètres, je crois que c'est un kilomètre cinq, le matin du domicile de Jean-Jacques Lepage. Je lui ai posé la question, je n'ai pas eu de réponse.
L'enquête a démontré qu'il existe des zones d'ombre dans l'emploi du temps de Chantal Monnier. Mais pour autant, peut-on imaginer que la mère et la fille soient complices ? Impossible à dire. Cependant, lorsque les avocats de la partie civile vont demander à Laetitia si sa mère l'a aidée à commettre le crime, la jeune femme d'habitude si bavarde va bizarrement se taire pendant plusieurs secondes.
Pendant 30 secondes, il y a eu un silence total dans la pièce. On aurait entendu une mouche passer, ou un ange. Et on s'est dit, ça y est, c'est là. Elle va le dire. Elle l'a pas dit. Mais elle a failli. On le sait tous. Elle a eu 30 secondes de doute. Où elle s'est dit, je vais te dire la vérité. C'est raté.
Après ce long silence, Laetitia Monnier innocentera sa mère définitivement. Après 9 jours de procès, le verdict tombe. William Roland est acquitté. Il est reconnu innocent du meurtre de Jean-Jacques Lepage.
Pour moi, c'est vraiment la chape de plomb qui a sauté. Je me suis senti léger, flottant, vraiment comme débarrassé de tout le poids de la culpabilité qui avait pu peser sur moi. C'est pas en vain que j'ai pu me battre, en fait, quoi.
Finalement, c'est son histoire qui a été la plus intéressante. Comment on peut être accusé de meurtre pendant 8 ans alors qu'il apparaissait évident que ce type-là n'avait rien fait.
Pour William Roland, c'est la fin de 8 ans de soupçons et de luttes. Il est enfin libre de reprendre normalement sa vie. Malgré l'absence de preuves formelles, Laetitia Monnier est-elle condamnée à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Jean-Jacques Lepage ?
Bien évidemment, elle a fait appel immédiatement. Puisque elle, ce qu'elle veut, c'est être acquittée, et puis elle ne veut rien d'autre. Donc concrètement, ça veut dire qu'il y aura un nouveau procès, sans William Roland cette fois-ci,
Ce qui n'est peut-être pas une mauvaise chose, puisque ça permettra de se concentrer sur le cas particulier de Laetitia Monnier et sur l'absence totale de preuves s'agissant de Laetitia Monnier.
Elle est innocente, donc il faut quand même pas qu'on arrête d'accuser les innocents en espérant qu'ils vont trouver les coupables. Hein. Mais même s'ils les trouvaient pas, qu'on la reconnaisse innocente. Voilà.
Pour la famille Lepage, le procès en appel s'annonce déjà comme une nouvelle épreuve.
Psychologiquement, je préfère que l'affaire s'arrête là, parce qu'on va tout remettre à plat à nouveau. Mais attendez, dans ce cas-là, l'instruction s'arrêtera quand ? On sera encore vivant ? La vérité, à 90%, on l'a. Bon, on va se contenter des 90%. C'est tout. Les 10% qui manquaient, on a failli les avoir, on les aura plus. C'est tout.
L'essentiel, c'est que la personne qui a porté les coups à mon oncle, la personne qui a fait cet acte de barbarie, hein, peu importe les détails de cet acte, qu'elle soit condamnée. Et qu'on nous dise, voilà, maintenant, retournez chez vous, vous pouvez retourner chez vous, l'âme en paix, hein, parce que c'est un peu ça, l'âme en paix.
Dans l'attente de son nouveau procès, Laetitia Monnier reste présumée innocente.